Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour et bienvenue à la table des fabulistes pour un épisode un peu spécial, une rencontre. Et pas avec n'importe qui, une rencontre avec l'équipe du Mythe de la Taverne, un autre podcast de jeux de rôle dans un autre univers avec des règles complètement différentes. Nous avons envoyé notre roublard le plus aguerri pour les trouver, les débusquer et leur poser quelques questions. Profitez bien de cette rencontre entre rôlistes, et même avant d'écouter, vous pouvez tout de suite aller écouter le Mythe de la Taverne les yeux fermés, parce que comme on dit dans le milieu du podcast, en v'là-t-y pas une démission qui est pas à piquer des verres. Bon épisode à toutes et à tous. Dans les ruelles d'ombre claire, une mélopée tinte à mes oreilles. Doux mélange de rires tonitruants, de chuchotements curieux et de bruits de dés roulant sur une table. Je ne peux m'empêcher de pousser la porte de bois qui se trouve face à moi. L'enseigne indique « Bienvenue au mythe de la taverne ». Nom étrange pour une auberge, quoique fort stylé, me dis-je. En entrant, je suis étonné de voir l'établissement presque totalement vidé de sa clientèle. Une seule table ronde, faiblement éclairée par des bougies, a été positionnée au centre de la pièce. Sur cette table est positionné tout un tas d'objets farfelus que je n'avais jamais vus. Des boissons étranges conservées dans des cylindres de fer sont posées entre les dés et des feuilles de papier. Quatre individus sont assis autour de la table. Je m'approche et je suis accueilli par le large sourire du tavernier. Il me dit s'appeler Steve. C'est un humain, aux cheveux bruns, à la petite moustache posée sur sa lèvre supérieure. Il cache un regard rêveur derrière une paire de bicycles. Il m'invite à m'asseoir. Une jeune femme, certainement une magicienne, à la chevelure rousse, est en train de jouer avec la flamme d'une bougie. Steve me dit qu'elle se nomme Shelinka. Une grosse main me frappe dans le dos et je me retourne sur un homme colossal à la grosse barbe fournie encore détrempée de bière qui rit aux éclats. Il me dit s'appeler Sommeul et me souhaite le bienvenu. Il se fait aussitôt réprimander de sa brusquerie par une jeune femme aux cheveux blancs et à l'air malicieux et rusé. C'est Neptune. Je suis fasciné. Steve me dit qu'il joue à un jeu formidable, appelé jeu de rôle. Si j'ai bien compris, ils font semblant d'être des héros, se mettent dans des situations impossibles, lancent des dés pour tenter de s'en sortir et enregistrent magiquement le tout pour leurs nombreux auditeurs. Je n'ai pas tout compris. Vous êtes des bardes modernes en quelque sorte, leur dis-je. Les quatre persifleurs, comme ils aiment s'appeler entre eux, rient de bon cœur. Le maître de la taverne me sert une chope. J'ai un millier de questions à leur poser.
Et bonjour, bonsoir. bonsoir et bienvenue dans le tout premier épisode, le grand lancement.
Tu vois, voilà, vous dites effectivement, c'est une porte, il n'y a pas de doute
là-dessus. Il y en a qui a tout fait.
Elle est partie, elle avait caché en sèche. Alors, décidément, vous êtes toutes les trois autour de la porte. Vous vous regardez, voilà, les bras sur les hanches. Le podcast, le mythe de la taverne, on s'applaudit pour vous. Faites-moi le ménage de cage. Et quel top.
Passion ou métier? Faites ça un pur rôliste passionné avec une vraie vie derrière ou vous faites ça tout le temps?
Eh ben,
on aimerait bien faire ça tout le temps.
Allez-y, je vous en prie.
Heureusement, on ne fait pas ça tout le temps, non. On a chacun des occupations diverses.
Bah oui, enfin, moi j'aimerais bien faire ça tout le temps, mais c'est pas possible. Mais c'est, enfin, ça nous prend déjà pas mal de temps. Hein.
Enfin, c'est vraiment un truc passion dans le sens où c'est ce qu'on disait à plusieurs reprises. On a commencé pour faire ça entre nous. On s'était dit on va jouer au jeu de rôle parce que on est potes et qu'on a envie de faire ça. Et comme Steve aime les podcasts, on s'est dit qu'on allait enregistrer. Et on s'est toujours dit que ça n'allait jamais marcher. L'épisode 1, même le pilote, on s'est dit ok, on enregistre parce qu'on trouve ça cool, mais jamais ça va fonctionner. Et du coup on voit que ça fonctionne et c'est grave le feu, mais c'est vraiment plus par amour de l'amitié et du JDR qu'on fait ça.
Ouais, exactement. C'est pas du tout nos taf. Et même on a pas de formation ni d'audiovisuel ni de rien du tout, en fait. C'est vraiment on débarque de
ni même de comédien,
on a
fait du théâtre parce qu'on est des bacs littéraires, mais
OK, donc vous partez tous et toutes de zéro.
C'est ça.
Juste d'un projet, envie de s'amuser et tout est à créer.
C'est ouais, ça. Exactement, c'est ça. Bah, quand on avait commencé, du coup, j'avais acheté le matos de mon côté en glanant des informations un peu partout, en demandant des recommandations à des personnes, en achetant les trucs, en me disant ça a l'air pas trop mal et ça a l'air pas trop cher, donc du coup, on va partir sur ça. Et ça a été beaucoup de tâtonnements jusqu'à réussir à faire ce qu'on voulait, quoi. Et encore du tâtonnement aujourd'hui, puisque ce matin, on s'est encore vautré avec notre son. Et en fait, au final, on a réussi à faire un truc. C'est un peu du bricolage, en fait, le mythe de la taverne. Mais disons qu'on s'est dit, ouais, on fait du bricolage, mais on va quand même genre aller chercher des outils. On va pas faire ça avec genre des pierres et des bouts de bois. On va essayer de faire un truc un peu quali dès le début, quoi.
Et ça marche plutôt pas mal parce que vous partez de rien et aujourd'hui saison 3 et c'est vraiment cool ce qui se passe pour vous. Je trouve il y a plein d'écoute, il y a de l'engouement, il y a vraiment une communauté qui vous suit et puis. Ça, vous êtes toujours là à vous éclater, à continuer, donc j'imagine que les objectifs de base sont dépassés.
Ah bah c'est simple, il n'y avait pas d'objectif.
pas d'objectif.
Non, l'objectif c'était vraiment de s'amuser et puis après on a vu que les gens avaient accroché, donc on a continué, mais pas uniquement parce que les gens ont aimé, parce que nous aussi ça nous fait kiffer de se voir et d'enregistrer et d'inventer des mondes, n'importe quoi.
Je pense que les objectifs ils vont évoluer avec nous et avec... ce que les gens auront envie de voir aussi.
C'est ça.
Parce que là, on a lancé plein de projets, ne serait-ce que le Discord, et c'était pas un truc qui était prévu à la base. Et on l'a fait parce que les gens nous le réclamaient et qu'on s'est dit que ça pouvait être une bonne idée, mais les projets, ils évoluent avec le podcast.
On est des people pleasers.
C'est exactement ça, on sait pas dire non.
Non, mais c'est vrai. En fait, c'est l'avantage un petit peu de partir en se disant... Moi je trouve que c'est un bon état d'esprit entre guillemets. Enfin, faut pas partir en se disant ça va être nul et tout, mais faut partir plus en se disant je fais ça parce que j'aime faire ça et pas parce qu'en fait je veux que ça devienne célèbre. Parce qu'en fait, je pense que si tu commences un projet en ayant en tête plus le truc de je veux que ça perce, je veux être méga célèbre et tout, plus que je fais ça parce que je m'éclate, quelque part ça va être dur de le tenir sur la longueur parce que des fois en fait, de faire en sorte que quelque chose réussisse, c'est un moins un travail de longue haleine qui soit des fois n'arrive pas du tout, soit des fois arrive au bout de longtemps. Et si en fait tout ce temps-là, t'es juste drivé par le truc de un jour ça marchera, je pense pas que ce soit un truc très sain. Et partir pour un projet juste en te disant je kiffe ça et je le ferai quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on a fait. Moi je trouve que ça marche bien de partir comme ça. On s'en est jamais plaint.
Non. Non, et puis c'est très agréable de pouvoir réécouter ses propres aventures. Comme...
c'est vrai.
Ça c'est un truc de joueur feignant. Quand t'as la flemme de prendre des notes, paf, t'as juste à mettre rec et puis tu peux réentendre tout ce que t'as fait.
Non mais exactement.
Pour faire suite à cette question, donc j'écoutais Fibre Tigre sur son interview de Radio Taverne, et il parlait d'un truc auquel j'avais déjà pensé et que beaucoup de gens parlent, c'est ce truc de en fait métier ou passion. Et en fait, quand ta passion devient ton job, ou alors à plus petite échelle, quand justement ta motivation, c'est un peu la reconnaissance ou le succès, et que du coup, ta passion devient contrainte, ouais, c'est ça, contrainte par ce que les gens, là en l'occurrence les auditeurs, attendent de toi, ça peut transformer ton média. Ouais. Et nous, on vient du bas, on a débarqué il y a quelques mois, et on... pour les mêmes raisons, parce que le jeu de rôle c'est incroyable et parce qu'on a envie de se faire plaisir et puis parce que ça reste une très bonne motivation de s'enregistrer pour l'assiduité, pour plein de choses, ça met un enjeu qui est pétillant, et aussi parce que c'est trop bien de partager ça à des copains qui ont jamais entendu quoi que ce soit à partir du fait que voilà, le jeu de rôle pour eux c'est un truc super obscur, bah là on peut le montrer, donc c'est trop cool. Mais vous êtes quand même sur une strate un peu au-dessus d'un podcast qui se lance super bien, qui marche, etc. Et du coup, je me demandais ce que vous en pensiez là, de cette pensée de fibre. Voilà, est-ce qu'on s'arrête avant que ça ait vraiment du succès ? Est-ce qu'on s'en détache complètement ? Comment on gère ça ?
Bon, personnellement, je pense que c'est valable pour tous les corps de métier et pour toutes les passions, en fait. À partir du moment où ça prend trop le pas sur ta vie perso... pro ou n'importe, et que ça t'empêche de vivre ta passion et vivre ta vie, bah c'est pas forcément souhaitable, donc pour l'instant on se pose pas trop ces questions. Enfin, moi je me suis pas trop posé ces questions là, mais je sais pas qu'en pensent mes camarades.
L'avantage avec le fait que ce soit quelque chose qui nous plaise, le fait que ça ait pris et qu'on ait des bons retours et que les gens, ça leur plaise, personnellement, ça m'a créé une motivation supplémentaire pour pouvoir continuer, en fait. Parce qu'on n'était pas forcément à la recherche du succès ou quoi que ce soit. On l'a fait de base parce que ça nous plaisait. Et maintenant que ça plaît aussi à d'autres gens, c'est une motivation supplémentaire de voir que bah, y a des gens qui sont dans les mêmes délires que nous. Et du coup, ça donne encore plus envie de le faire. Quand là, aujourd'hui, on a mis des stories en disant « Ah ben, on va enregistrer la saison 3 », les gens, ils étaient comme des dingues, nous aussi. Et du coup, ça fait plaisir de partager cette même envie et cet engouement. Et enfin... je pense que c'est ce qui nous empêche de transformer ça en métier et pour que ça reste de la passion, même si, en effet, ça fait beaucoup de travail dans les coulisses.
Et c'est aussi ce que tu disais à plusieurs reprises, Camille, qu'on joue surtout pour nous, avant tout.
Oui, oui, bien sûr.
On joue avant tout pour nous et pas pour les auditeuristes. Et du coup, bah, en fait, c'est pas qu'on ne tient pas en compte ce que les gens disent, mais ça veut dire qu'on joue avant tout pour nous et on fait avant tout ce qui nous fait marrer, nous. Et du coup, je pense que c'est aussi un peu une des clés de... Enfin, on est des people pleasers, mais pas à ce point. Dans le sens où on va pas... Enfin, si les gens nous disent « Oh là là, arrêtez de mettre Neptune invisible », bah, niquez-vous. Non, mais... Dans le
oh
sens
là là
où c'est un truc qui nous fait marrer et on va pas arrêter de faire des choses qui nous tiennent à cœur dans notre podcast parce que ça plaît pas à un certain nombre d'auditeuristes. Je pense que c'est aussi une des clés pour... garder ce côté un peu passion et un peu c'est notre projet et on se marre en le faisant.
Je pense qu'il faut tout, même si un jour il y a quelque chose si quelque chose passe de passion à métier, il faut toujours chercher à garder quand même dans son taf ou dans un truc que tu fais professionnellement une part de ça, je le fais parce que ça m'éclate. Ça c'est pas un truc qui est plus ou moins attendu de moi, genre si je le faisais pas, eh ben on serait tout le temps content de moi. Mais je le fais, genre, c'est la petite touche de plus qui fait parce que moi, en fait, ça me plaît et pas parce que je veux impressionner quelqu'un ou je veux qu'on se dise, ouais, il fait trop bien son taf. Et je pense qu'après, on va voir comment ça évolue. Et pour l'instant, on est connus entre gros guillemets, mais genre, on est des nano-influenceurs, des micro-influenceurs, genre, on est minuscules, quoi. Mais à voir, en fait, ça, parce que ça se trouve, après, effectivement, ça prend une énorme part. Mais je pense qu'il faut toujours, ouais, garder ce truc de, tu fais ça parce que ça te plaît avant tout. Et tu le fais par envie plus que par obligation, même si derrière il y a un petit côté obligation, mais je pense qu'il faut qu'il soit un petit peu effacé par ça. Par exemple, nous, il y a le côté obligation, il faut qu'on poste un épisode toutes les je sais pas combien, parce que c'est un peu ce qu'on a promis, mais c'est effacé par le fait qu'effectivement, quand on se retrouve et quand on joue, en fait, on le fait avant tout pour nous. C'est-à-dire que c'est rare qu'on se dise oh là là, l'épisode va pas être qualitatif ou quoi, juste en fait on se dit, moi à la fin je suis en mode, est-ce que vous avez aimé l'épisode, est-ce que ça vous a fait kiffer de jouer, est-ce que vous avez trouvé le scénario bien et tout. Je dis pas alors est-ce que vous pensez que les auditeurs vont aimer et tout, on n'est pas du tout dans cette dynamique là et je pense que c'est un point clé du truc.
Je m'intéresse à ça là sur ces premières questions parce que en fait, je trouve que vraiment la communauté rôliste, comme la communauté un peu nerd ou métal, etc., ça, sans stéréotyper le truc, mais je sais pas, moi, ça me rappelle vraiment les bons gars du collège que je vois toujours. Ça me rappelle
un vivier de gens vraiment intéressants, intéressés et avec vraiment un univers commun et personnel à partager. Depuis qu'on a commencé les Fabulistes, nous, grâce à Instagram notamment, et bah, tout de suite on a pu parler à des gens, des dessinateurs, des créateurs. Vous, on s'est parlé trois fois en disant « Eh machin, c'est marrant, ah c'est cool, ah GG, etc. » On poste deux, trois photos et tout de suite on se parle et on se dit « Oh bah putain, nous, zut. » Et bah nous on débarque et tout, est-ce qu'on peut mettre un petit interview de vous, etc. « Oh bah oui, c'est cool. » Et en fait, ça, moi j'adore, il y a une espèce de simplicité dingue et une sorte de vraie générosité très simple. Et en fait, on a envie de raconter des trucs, on a envie de faire des trucs, et surtout, on a, comme tu dis, comme vous dites tous, on a envie de prendre ce plaisir ensemble. Et moi, ça m'éclate, et je suis trop content que ça soit partagé, et je suis trop content que ça soit entendu par un maximum de gens, de se dire, en fait, peu importe le support, et si c'est le jeu de rôle, c'est très bien aussi, bah, partager ses kiffs, faire des choses par plaisir, et y mettre un peu d'exigence, et le partager, bah, c'est tout ce qu'il faut, en fait.
Non, ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a ce côté... émulation où tu rencontres des gens super sympas, tu discutes avec d'autres personnes. Nous dans Narva, on a rencontré rien que Dice Eclipse. On s'est rencontré comme ça où genre on l'a suivi, elle nous a suivi, on regardait ses stories, on commentait ses stories, elle commentait nos stories, elle s'est mise à écouter, on s'est mis à lui acheter des dés. Enfin, il y a cette espèce d'émulation où tu rencontres des personnes et tu es en contact avec des personnes que tu aurais jamais eu des contacts avec de ta vie en fait entière si t'avais pas fait ça. Et c'est vrai que ce côté-là est sympa. Ça fait très, tu sais, entrepreneur, en mode tu te connectes avec des gens et tout. Mais je trouve que justement, ce qui est super sympa, c'est que comparé au truc genre LinkedIn ou quoi, où c'est un peu ce truc de réseau, là en fait c'est sincère quelque part. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a vraiment un truc de tu parles à des gens parce que tu les trouves intéressants ou parce que eux te trouvent intéressants et tout. Et il n'y a pas ce truc un peu... d'entrepreneur forcé sur LinkedIn en mode bonjour, je suis Jean-Jacques, PDG de Trucmuche, nous devrions trop nous mettre en contact et tout, avec cette espèce d'arrière-pensée de je le fais pour en tirer du profit ou quoi. Là, c'est vraiment quelque chose de naturel. Je sais pas ce que vous en pensez autour de la table.
Les communautés sont bienveillantes en règle générale et du coup, on n'a pas peur de se casser les dents à commencer une conversation avec qui que ce soit parce qu'on se dit un peu que. Dans tous les cas, on n'a rien à perdre, en fait. Et puis, la plupart du temps, à chaque fois qu'on rencontre des gens, c'est des gens qui sont très cool et très gentils. Et on est là pour se soutenir les uns les autres. J'ai l'impression que dans la communauté de jeux de rôle, en règle générale, tout le monde est très gentil et ça se passe bien.
La preuve, on est là, on fait une interview avec toi. Donc,
t'es ouf. et du coup, moi, ça me fait penser à une anecdote. Quand j'ai redécouvert le jeu de rôle il y a un an ou deux, là, pendant le confinement, je suis devenu fou amoureux de Roll and Play. Et parce que j'aime bien péter des caps sur des projets, j'ai tout de suite envoyé un message random à Julien Dutel en disant « Waouh, c'est incroyable et tout, moi aussi je veux faire ça. Moi aussi je veux m'amuser à faire MJ avec des potes et raconter des histoires. Comment ça marche? Comment tu fais ?» Avant de me poser la question, mais en fait le gars est super occupé, il a peut-être autre chose à faire que répondre à tous les pégus qui lui posent une question random et tout. Et je me suis dit, ben oui, en fait c'est du boulot tout ça, et du coup vaut mieux, plutôt qu'attendre que ça tombe, vaut mieux juste essayer et faut pas avoir peur du fait que, ok podcast, ok jeu de rôle, ok matos, ok gens, ben non, juste ça me passionne, j'y vais, je fais. Et vous êtes ultra fan de gore, l'histoire part un peu de là, de ce que j'ai compris. Et comment vous faites le lien, comment vous faites le passage entre « Ouais, mais cette émission, ça déboîte, c'est hyper gaulerie » à « Eh ben, vas-y, nous, on le fait. »
Fun fact.
Steve qui cherchait des gens pour
faire. Ouais. Fun fact, il n'y a que Steve qui a écouté Game of Thrones autour de la table.
Vraiment, eux, ils ont écouté le début de l'épisode 1, parce que quand on avait commencé à jouer...
Tu nous as forcé.
Non, arrête.
Je m'en souviens même pas.
En fait, je leur avais dit, j'aimerais bien que vous fassiez une très courte description de votre personnage. Et en fait, on avait essayé d'enregistrer une première fois et j'étais pas super satisfait du résultat parce que c'était un peu long et je trouvais que de temps en temps il y avait des détails, genre c'était des trucs du genre j'ai les cheveux blonds mais ils sont un petit peu noirs, en fait ils sont entre noir et blond et tout, et j'étais en mode ça on s'en fout un petit peu, on va faire plus succinct. Et du coup je leur avais envoyé l'épisode 1 de Game of Thrones pour leur montrer en leur disant regardez là ils font une espèce de petite description vite fait, arrêtez de me jeter le regard comme noir comme ça. Je n'ai pas dit qui avait fait ça autour de la table.
Non, juste j'en ai aucun souvenir.
Bah, de toute façon, c'est dans le truc. Mais oui, en fait, bah, c'est, comment dire, moi, j'aime bien faire des projets audiovisuels. J'avais fait du YouTube il y a très longtemps, ça n'avait pas marché et j'avais trouvé ça cool. J'avais trouvé ça beaucoup niveau logistique et tout.
Ça dépend du YouTube que tu fais. En vrai, moi aussi, j'ai une chaîne YouTube.
Ah ouais ?
Elle a décollé, mais parce qu'on était une petite communauté dans un tout petit truc où il y avait Saint-Père. Du coup, forcément, ça a marché.
Logistique de genre, il faut que tu filmes, il faut que tu écrives des scénarios entre guillemets.
Oui, si tu fais des vrais trucs stylés.
Voilà, c'est ça. Il faut faire du montage, il faut machin et tout. Enfin, je trouvais que c'était beaucoup et du coup, j'avais arrêté de faire ça. Et en fait, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 4 ans que j'ai commencé à vous en parler du Mythe de la Taverne.
Ouais, 2019-2020.
Ouais, mais oui, parce qu'en plus au début j'en avais parlé et ça a mis du temps, là, ça a mis du temps à se mettre parce que
je devais acheter
le matos et tout. Ouais. Mais même parce qu'on a démarré avant le Covid, enfin bref. Et en fait, il y avait c'était le moment où les podcasts commençaient un petit peu à toucher le grand public. C'est-à-dire, il y a des gens qui écoutaient les podcasts depuis longtemps, mais quand ils te parlaient des podcasts, c'était là en mode des podcasts genre Norman qui se filme en contre-plongée en disant faux. Et en fait, non, c'était des podcasts audio. Et c'était le moment où les gens commençaient vraiment à écouter des podcasts. Et moi, du coup, ben, j'avais commencé à écouter Game of Thrones et plein de trucs. Et je m'étais dit, mais c'est trop bien, j'ai trop envie d'essayer de faire ça, en fait. Genre, il y a un côté avec le podcast, je trouve, un peu comme au début de YouTube. C'est-à-dire qu'au début de YouTube, t'avais des gens qui arrivaient avec un téléphone portable et qui se filmaient, genre, avec leur téléphone portable. Et genre, t'avais plein de chaînes comme ça de merde où les gens, ils avaient de la qualité pourrave. Et en fait, genre, ça marchait bien. Et il y a ce truc un peu, je trouve, au début des podcasts. Maintenant, beaucoup moins parce que ça s'est professionnalisé très vite. Mais au début des podcasts, t'avais l'impression que t'avais genre 4 mecs chez eux avec des micros pourris. En fait, ils faisaient des trucs et tu disais, ouais, mais ça a l'air super facile, j'ai envie de tester aussi. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais tester aussi. Avec quelque part la peur de me dire, ça se trouve, ça a l'air facile parce que les gens qui le font, bah en fait, ils sont super balèzes. Et en fait, quand toi, t'essaies de le faire, genre, ça rend un truc hyponde. Donc voilà. Donc il y avait cette peur de se dire, bah, est-ce que ça va marcher ? Et j'avais. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi mon radis bizarre ?
Mais non, mais on t'écoute.
Ok, je sais pas, mon radis bizarre.
Je me souviens plus de la question. C'est pour ça que je sais plus si tu
la
réponds
question,
à la question.
Comment on est passé de on écoute Game of Thrones à on fait,
ah.
On fait ça ?
Ah, ok. Non, mais ça marche alors.
Pardon. Déjà, le début de la question est erroné puisque vous écoutez pas.
J'ai
donc
écouté
déjà,
mais j'ai
comme
pas
en
beaucoup
en bon
de
MJ,
mémoire.
Je vais balancer 50 pages de lore parce que voilà. Non mais OK. Trop cool.
Non mais quoi qu'est-ce qu'il y a non mais.
Qu'est-ce qu'il y a non mais. Non mais c'est je trouve que le il y a un vrai truc dans avoir peur de quelque chose. Oui, c'est normal. Le faire quand même, c'est trop bien.
Bah ouais, je me suis dit quand j'ai acheté le matos, du coup, je me disais, est-ce que je suis en train de faire n'importe quoi, je suis en train d'investir énormément d'argent dans un truc où, genre, on va enregistrer de fond, on va faire, ouais, ça nous aime plus, pas plus que ça, et on va arrêter, ou est-ce que c'est vraiment un truc sur le long terme? Je pense aussi que, quelque part, quand tu, inconsciemment, en fait, quand t'investis de l'argent dans quelque chose, ça te pousse à le faire, genre, c'est ce truc de, tu te dis demain je vais faire du sport et en fait si tu vas à Decathlon et t'achètes genre des turbo chaussures super chères, tu te dis ok, faut que je les rentabilise ces chaussures, genre elles m'ont coûté de la thune, je veux les rentabiliser. Je pense qu'il y avait un tout petit peu de ce truc au début, mais oui, je me suis dit si ça marche pas et que c'est nul, au pire tant pis, et si ça marche bien, c'est tout bénef quoi. Mais oui, je pense c'est ce qu'on dit beaucoup aux gens qui nous demandent comment faire du JDR ou comment faire de l'actual play. On leur répond beaucoup, en fait il faut juste essayer, genre il faut juste, tu le fais et à chaque fois tu améliores un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut juste le faire quoi. Ça fait un peu discours d'entrepreneur en mode si vous avez envie faites-le, mais en vrai c'est débile, mais oui, enfin on s'en fout, en fait on s'en fout que t'aies pas le micro de la turbo bonne qualité ou la caméra de la turbo bonne qualité. Voilà, on s'en fout qu'au début ça soit pas ouf.
Le pilote,
moi j'avoue que je cringe un peu en écoutant le pilote.
Le pilote il est pas incroyable,
ouais,
quand on écoute la saison 3 avant.
Oui.
Tout le monde commence quelque part, et même quand tu regardes genre les premières vidéos des youtubeurs maxi connus maintenant, t'es là en mode waouh, c'est complexe quoi, voilà. Donc il faut pas avoir ce truc de il faut que ce soit parfait dès le début ou quoi. De toute façon, même si tu commences en te disant c'est parfait, quand tu vas réécouter plus tard, tu te diras waouh, c'est pas ouf quand même.
Bah trop bien, merci beaucoup.
Est-ce qu'on peut te contre-interviewer rapidement ?
Ok.
Allez, alors dis-nous toi, comment est-ce que vous êtes passé de l'idée à la réalisation du podcast ?
Eh ben, moi j'avais vraiment vraiment la sensation que le jeu de rôle c'est un truc qui pouvait sauver de l'isolement qu'on a un peu vécu pendant le confinement. Et du coup je me suis mis à faire ça, et pour un peu mettre un mettre un masque sur voilà, des choses que j'avais pas envie de voir, je me suis mis dans le jeu de rôle à fond. J'ai acheté beaucoup trop de livres, j'ai claqué beaucoup trop de thunes, j'ai beaucoup trop passé de temps à lire. Et je suis devenu fou de ça, écouter tous les podcasts, tous les trucs. Et j'ai dit à des copains, bah voilà, il y a un vrai truc trop chouette à faire ensemble. Vous, vous connaissez pas les uns les autres. Il y a des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle, il y a des comédiens, il y a des rôlistes que depuis des années. Et bah venez, on se met tous ensemble et on fait un truc, quoi. Avec un système de règles complexe que je connais très très peu, et on verra.
Parce que,
et
du coup,
en fait, quel bonheur.
Du coup, toi, t'as commencé directement le jeu de rôle sur un système Donjons et Dragons. T'avais rien fait, entre guillemets. C'est comme ça que t'as été introduit au jeu de rôle ?
Ma première expérience jeu de rôle, c'était avec Warhammer.
Ah.
Quand j'étais au collège, il y a presque 20 ans. Ouais, avec Warhammer, et puis j'ai arrêté. Et puis directement, quand je m'y suis remis, ouais, c'est ça. C'était avec un système D20, Roll and Play et tout. Et avec un système D6 aussi, Z-Corp, un truc zombie absolument génialissime.
Je connais pas ça. Ok. Est-ce que t'as, au niveau des livres de jeux de rôle, c'est quand que t'as acheté ton premier livre de jeux de rôle ?
Eh ben, c'est Z-Corp, pendant le confinement.
Ah, d'accord. Donc vraiment, ça a été relativement tardif ?
En fait, vraiment, je m'enfermais dans un truc de jeux vidéo ou de séries Netflix à devenir tout blanc et plus avoir de vie sociale. Et en fait, le tremplin s'est fait avec, bah vas-y, continue ton truc de monde surréaliste qui te fait t'échapper du vrai monde, mais fais-le avec des gens. Et du coup, le jeu de rôle.
Ok, c'est top. Et est-ce que c'est toi qui écris le scénario ou est-ce que c'est un scénario qui existe déjà ?
Le scénario, c'est moi qui l'écris intégralement, mais on s'appuie sur un système de règles qui est le système, bah, justement, de Héros et Dragons. Et du coup, en fait, t'as déjà, tu vois, le prix des choses, t'as énormément de contenu. Donc là-dessus, il y a juste à calquer un monde et un lore et c'est tout.
Et c'est la première fois que tu faisais ça, d'écrire un monde, un scénario ?
Pour le jeu de rôle, ouais.
Ok, et t'as pas trop. Est-ce que ça t'a pas intimidé au début de te dire il va y avoir des gens qui vont venir poser des questions sur des trucs super précis et moi je vais être largué sur qu'est-ce que c'est et comment je fais et... Genre ils vont être là en mode. Et comment il s'appelle le tavernier ? Tu fais putain merde, j'ai pas pensé à ça.
Eh ben, j'ai beaucoup écouté de super conseils de gens du jeu de rôle comme Naëtarion ou le bon MJ, des gens. Qui partagent ça super modestement et avec beaucoup de savoir. Et souvent, c'était ce truc-là qui revient, mais ne t'empêche pas de faire les choses par peur. Si quelqu'un te pose cette question, partage et dis « Mais toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Et si tu fais une connerie, bah, c'est pas grave. Et donc, en fait, je me suis lancé dans un lore beaucoup trop complexe où j'ai pondu 90 pages et je me suis éclaté. J'adore faire ça. On a fait une partie. À la première partie, les joueurs ont fait absolument l'opposé de ce que j'avais prévu. J'ai pris 70 pages, les ai foutues à la poubelle. Je me suis dit « Ok, c'est comme ça que ça se passe. »
C'est
un bonheur, en fait.
Ouais, bah,
moi j'adore ça.
On a eu là aussi un truc où il y avait des espèces de rencontres de prévues, mais en fait ils ont fait quelque chose qui du coup j'ai dit bon ben du coup je peux plus faire mes rencontres. Donc voilà. Mais c'est marrant de voir que il y a ce truc de jeu de rôle de t'as beau passer des heures et des heures tout seul avec ton ordi à faire des recherches et tout, ils arriveront toujours à faire quelque chose auquel t'avais pas pensé et où après en fait quand ils le font ou qu'ils te posent la question tu dis mais je suis trop con, pourquoi est-ce que j'ai pas préparé ça entre guillemets, tu sais.
Ouais, carrément, je suis d'accord. Eh ben on va faire un petit jeu parce qu'on est tous des joueurs, on kiffe ça. En fait c'est toujours des questions. Mais sauf que j'en ai tellement des centaines de millions.
100,
c'est... En gros, vous lancez un dé 100, ça tombe sur une question random, et vous y répondez.
Roll for
mais
question.
En un mot, trois mots, quoi. Un truc très simple, très rapide.
Okay. C'est un mot pour tout le monde ou par personne ?
Chacun, pour vous.
Okay. On se concerte avant.
Vas-y, Sam, toi qui fais les jeux.
J'ai les dés de personnes amicales.
Sommel va jeter les dés. Oula. T'es prêt ?
Attends quoi?
Non, attends, c'est pas. Oh là là!
Il a raté.
Je m'ai trompé.
Est-ce que tu te rends compte, Simon, que ça fait genre 2 ans que je joue avec eux, ils ne savent toujours pas quel dé ils
posent? Alors, j'ai jamais utilisé ces dés là, donc.
Chez vous, ça va, il y en a que 2.
Et bah, 2, justement.
2.
2.
Ouais.
Waouh. 2.
2.
Et ben, 2.
Réussite critique.
C'est parti.
J'avoue, réussite critique.
Vous l'interprétez comme vous voulez.
Ah, oh.
Looter ou acheter?
Comment ? Looter ou acheter ?
Looter ou acheter.
Oh, c'est looter. Comme le truc, c'est comme le truc Combini où ils disent ça.
Wow.
Ça
j'ai
bah looter quand on peut, acheter quand on n'a pas le choix.
C'est beau.
Bon point.
Dans tous les cas, acheter.
Ah non, moi je suis plus looter.
Ouais, mais du coup, peut-être il y a des gens qui y perdent là-dedans, donc je sais pas.
Bah, tu sais s'il a perdu la vie.
Moi, je suis plus vous donner des objets un peu débiles sur les corps ou sur les trucs.
Je sais,
trouvez,
c'est pour ça que quand t'achètes, tu choisis.
Moi, je suis chaude de looter aussi.
Ok.
On relance un dé.
Ouais.
C'est moi qui fais.
Allez,
vas-y.
C'est Nika, lance le dé.
91.
Waouh.
Échec critique.
Ouais, mais ça va. 91. Mort épique ou mort à la con?
Mort à la con. Mort à la con direct.
Non.
Mort à la con en essayant de faire un truc épique.
Ouais.
Ça, c'est très jeu de rôle. Ça, c'est vraiment l'essence du jeu de rôle.
Mort épique.
C'est, oui, c'est la base.
Mort épique.
Ouais, moi, je suis désolé, j'ai trop un gros ego.
C'est ouf. C'est trop ma. Moi aussi, c'est mon truc de MJ où j'ai trop envie que si quelqu'un meurt, soit vraiment un truc de ouf qui reste dans les mémoires. Et
alors
tout,
que ça va être claqué, ça va être Chelinka qui essaye de faire une flamme et qui va se brûler avec son propre feu. Par exemple.
Et qui va descendre en toute zéro.
Yeah.
Allez, à moi. Neptune lance le dé.
70. 7-0.
Discrétion du voleur ou foncer tête baissée comme un berserk?
Ah bah, discrétion du voleur. Hein.
Foncer tête baissée.
Franchement, moi je serais plus foncer tête baissée. Je trouve ça
c'est crée plus marrant, tu caches plus de trucs.
Ouais. Mais attends, parce que du coup, depuis tout à l'heure, tu poses des questions, mais toi tu réponds pas. Il nous faut ta réponse à toi aussi. Foncer tête baissée ou discrétion du voleur?
Pour un maigre temps, je suis le MJ à la table, alors je me sacrifie.
Bon, bah à moi du coup.
Un autre dé.
Allez. 44.
MJ ou PJ?
PJ.
PJ.
Bah PJ, ouais.
Et pas police judiciaire.
Alors là, mais PJ, mais jamais de la vie, je suis MJ.
Mais pourquoi?
Mais parce que j'ai pas autant
de... mais parce que... Bon, d'accord.
Tu fais ça trop bien, Steve, on pourrait pas...
J'ai pas autant d'inventivité et de tour dans mon sac.
Je n'ai pas d'inventivité, j'ai juste lu beaucoup de livres.
Et puis moi, je sais pas écrire des histoires. Genre vraiment, quand il fallait faire des dissertations à l'école, c'était mon angoisse. Parce que j'étais à chaque fois en mode, je vais pas écrire une histoire sur « C'est une meuf qui va à l'école et elle achète un bouquet de fleurs. » Parce que je trouvais ça le plus cringe au monde. Alors que inventer des histoires avec mes potes et chacun on dit un truc et chacun on ajoute un truc à une histoire, ça me chauffe.
Eh ben, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait.
C'est pas moi qui suis en charge.
Mais personne n'est en charge.
Je suis pas responsable ici, madame.
Voilà. Du coup, quand on publiera ça, ce sera déjà sorti notre épisode. Mais vous croyez que l'épisode 2 de la saison 3, je suis en charge de ce qui se passe? Vous faites n'importe quoi. Bref. Non, mais moi, MJ. Et encore, il y a jusqu'à pas longtemps, j'étais vraiment en mode je ne veux pas jouer. Et j'ai joué une partie super sympa avec Onirium, voilà. Et franchement, c'était assez sympa. Ça m'a réconcilié un peu avec le fait d'être PJ.
Yeah.
Bah, je vais y aller. Si ce n'est que les portes.
Je vais casser un peu l'ambiance, moi je vais devoir y aller.
D'accord. Est-ce qu'on peut rajouter un bonus de 10 ou 15 si je la porte sur mes épaules pour que je le voie?
C'était cool. Et finissez bien du coup.
Vas-y, tu peux dire tout ce que tu veux.
Vas-y,
non, c'est pas à toi. C'est pas à Chenny.
C'est le kiff et le kiff.
3.
Hein. 3. Putain.
Ah, vous faites des meilleurs jets que quand on joue. Hein.
Ouais, ça c'est clair.
C'est combien?
3.
3.
Ah, oui.
Bon bah 3, je dois vous trouver 3 abonnés pour votre page Instagram.
Oh mince,
voilà, là, quel dommage.
Waouh. Trop cool.
Oh, bah merci.
C'est bien aimable.
C'est un bon jeu ça.
Vas-y, fais 100.
J'ai 69. 69, nice. C'est, en plus, c'est marrant que c'est moi qui fasse 69.
Alors, 69.
J'espère que c'est une question en rapport avec ça.
J'espère que c'est une question.
C'est la question quoi?
La question kin.
Alors, j'ai pas de question kin, mais après, libre d'interprétation. Bière ou lait de chèvre?
Bière. Plus jamais du lait de chèvre.
Ah, mais non, on l'a pas goûté du lait de chèvre.
C'était quoi ton lait dégueulasse que tu
c'était
nous as donné
du
là?
Du lait fermenté.
Oh, c'était ouais, le pire truc de la terre.
Bière. Hein.
Bière.
Moi, j'aime pas trop la bière, mais j'aime pas trop non plus le lait de chèvre. Donc, je vais dire bière au lait de chèvre. Pour avoir le pire des deux.
Eh ben, allez-y. 19. Ah. Ah ben non, je l'ai déjà. Ah oui, si. 19. Ah oui, mais vous, vous jouez pas avec ça. Bref. Ah. 19. Loyal, chaotique, bon ou mauvais.
Ah, bah on se demande c'est quoi la question.
Chaotique. C'est tout à la fois.
Bon. Aff. Non. J'allais dire loyal, mais en fait, dans la vie, oui. Dans le JDR, rien à foutre.
Moi, je
suis loyal envers mes compagnons. Et ouais, mes compagnons, mais outre mes compagnons, c'est bon.
Loyal ou mauvais, moi je dirais. C'est des personnages intéressants à faire. Des personnages soit qui sont très loyaux, soit qui sont très mauvais.
Yes. Allez, encore un petit.
Allez.
71.
C'est 2 au-dessus de 69.
Pleurer de tristesse ou pleurer de rire.
Ça dépend à quelle étape de la saison on est. Pour moi, c'est pleurer tout le temps.
Ouais, j'avoue. Bah, pleurer de rire quand même, hein, c'est vachement plus sympa.
Grave.
Ou pleurer de joie, en vrai.
Ouais, non, je suis d'accord.
Et ça... en même temps, pleurer de tristesse, c'est ce que je disais, genre, j'aurais jamais cru que le podcast puisse m'émouvoir autant. Je veux dire, même moi, j'ai été surprise à la fin de la saison 1 d'être autant en larmes. Et genre, de ressentir de la sincère tristesse. Et pareil, à la fin de la saison 2, quand... Quand je pleure aussi, cette fois-ci un peu plus de joie, j'étais étonnée de repleurer et de ressentir autant de choses. Et je trouve ça fou que des histoires que Steve nous raconte dans nos têtes, ça me fasse pleurer pour de vrai.
Bah, je suis d'accord. Moi-même, de mon côté, jamais j'aurais imaginé faire pleurer des joueurs à la table. Genre, c'est quelque chose qui ne m'aurait pas traversé l'esprit. Mais oui, moi aussi, je suis pleuré de rire, du coup. Parce que, comme je disais, ça m'a jamais traversé l'esprit de dire, là, je vais faire ça, et ils vont pleurer. Mais c'est incroyable de voir à quel point, en fait, le mythe de la taverne, le jeu de rôle, de manière générale, de vivre, en fait, les choses plutôt que de les voir écrites ou de les voir jouer à l'écran, par exemple. T'as une implication émotionnelle qui est beaucoup plus forte. Mmh. Et du coup, c'est assez balèze que, des fois, je dise deux lignes, genre je suis en mode ah ouais, et là il se passe ça, et ils sont là en pleurs autour de la table, et je me dis vraiment, c'est fou la force que ça a en fait de
raconter
l'histoire. Elle est fragile, de ouf. Je suis là, je vous fais mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Tu pleures?
Ouais, bah c'est trop beau. C'est vrai que. Enfin, oui. Mais non, mais c'est vrai que c'est. C'est un truc de fou, quoi, ce qui se passe à la table, dans l'intimité de la table, des joueurs. On est vraiment traversé par des trucs, des fois, et quand c'est podcasté, c'est chouette de le partager.
Tout à fait. C'est très chouette.
Ok, allez, encore un petit.
Moi, j'ai plus m'aider. Je vais les faire tomber.
Waouh.
Je joue avec sous la table. Il n'y a pas de question 13.
Ah, c'est 13, j'ai
oui,
pas entendu.
Pardon. Ah si, oui, non, ah, oui. C'est 13.
Parce que je parle en même temps, pardon.
On a attendu, du coup, on s'est dit, bon, il n'y a pas de 13. C'est pas grave.
13, podcast, vous aviez un peu déjà répondu, mais le podcast ou le jeu?
Ah, c'est dur en vrai. Hein.
Ah, parce que, en vrai, même si on aime le jeu, ça nous fait quand même kiffer de le faire en podcast.
Bah, oui. Parce que qui dit podcast dit communauté, et c'est pour ça que c'est vachement cool.
Ça me ferait trop bizarre de jouer une partie sans avoir de casque et sans avoir de micro devant moi.
C'est vrai.
Ça serait trop étrange, oui, c'est ouf.
C'est dur un peu.
Moi, je veux dire podcast.
Bah, et puis, je sais pas si on joue de la même façon en plus, hein. Vraiment. Je sais pas si on ferait les mêmes choix, on jouerait pareil sans le podcast ou non, je sais pas.
Il y aurait peut-être des vannes un peu plus graveleuses si on jouait pas en podcast.
Alors, c'est pas faux. Petit.
Okay. Confession time.
Ouais, petite confession. Le truc, c'est que nous, quand on enregistre en disant toutes les blagues possibles et imaginables qu'on a envie de dire sur le moment. Et après, Steve les enlève pour qu'on puisse pas nous taper sur les doigts. Mais du coup, techniquement, dans notre manière d'enregistrer de base, on se retient pas dans nos blagues. Donc en fait, on se retient
on se retient
trop.
Un petit peu dans notre manière
mais,
de jouer. Ouais. Je pense
mais
que
on
ce
est quand même
différent.
Des personnes correctes.
Ouais, non, mais bien sûr que
on
oui.
On se retient pas tellement parce que après, il y a des trucs qui peuvent être enlevés. Mais du coup, bon, je suis pas sûre que les parties seraient très 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 différentes si on n'avait pas les casques.
À mon avis, ce serait un peu différent quand même. Moi, je pense que si. Je pense que vous seriez un peu plus lâché.
Il y aurait peut-être moins de dispersion.
Non, justement, je pense qu'il y aurait plus de dispersion. Je pense qu'il y aurait plus de dispersion.
Je suis déjà à mon max là, quand même. Hein.
On est déjà bien dispersé.
Non, bah, okay. En vrai, ouais, je vais dire podcast, moi, parce que y a aussi, ouais. c'est devenu un package, en fait. Et ouais, du coup, ouais, je disais, ça me ferait trop bizarre de jouer sans ça. J'en ai trop l'impression, parce que on le dit souvent, mais vu qu'on a notre casque, qu'on passe les ambiances, qu'on passe les musiques, il y a un côté cocon, on est vraiment enfermé dans le truc. Du coup, ça me ferait trop bizarre de pas avoir le casque, de pas avoir le micro, de pas entendre mon retour de quand je parle. Ce serait étrange.
Ouais. Eh ben, je suis content de pas répondre à cette question.
Bah non, j'allais dire, du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh, je voulais avoir ton avis.
Question piège. Qui a écouté Les Fabulistes?
Moi, j'ai écouté le début de la saison.
Sam aussi a écouté. Ouais. Et il est parti avant de pouvoir le dire.
J'ai écouté le début.
Bien joué, bien joué.
Je crois que je suis arrivée, j'étais encore dans les dortoirs quand tout le monde se lève et se présente. Mais je crois qu'il manque des clés, parce qu'il y avait plein de mentions de races de personnages, de lieux, et ça a l'air d'être des trucs vachement acquis. Et je crois que j'avais pas les clés, parce que comme je m'intéresse à aucun podcast de jeu de rôle, enfin à aucun jeu de rôle à part le mien, je crois qu'il me manquait des clés sur ce point-là. Mais j'ai commencé dans le bus jusqu'à ce que j'arrive au travail.
Moi, je n'écoute même plus Game of Thrones. C'est terrible, ça.
Oui, moi non plus. Enfin, si, j'ai repris. Si, parce qu'ils ont fait un truc de fou, là, où ils balancent tout sur la saison, et c'est très particulier. Mais justement, je trouve que... Enfin, c'est vraiment un cas d'étude, Game of Thrones, entre, bah, justement, communauté ou jeu, quoi. Enfin, tu vois, il y a... Mais ok. Mais c'est vrai que moi, je suis trop content aussi de suivre ce que vous faites et de vous parler, parce qu'on fait deux filière du jeu de rôle ultra différente.
Parce que du coup, vous jouez sur un système genre Donjons et Dragons ?
Exactement, c'est la version française de Donjons et Dragons, donc c'est trop de stats, trop de dés, trop de complexes, trop de combats longs et chiants, etc., etc., qui sont pas adaptés au podcast certaines personnes, mais pas pour nos amis qui ont jamais fait de jeu de rôle. Et du coup, la saison 2, on réfléchit, et notamment en écoutant ce que vous faites, en se disant... Bah en fait, ça peut être cool de trouver un entre-deux. Nous, on aime bien nos narrations, on aime bien le lore très ficelé, mais en même temps, c'est hyper, hyper, hyper jouissif d'écouter des parties où bah, tu jettes un dé, bam, l'action se passe, et c'est vraiment cool. Donc il y a un truc, en tout cas, on apprend et il y a un truc à trouver entre les deux.
Mais après, je pense pas non plus que ce soit incompatible, parce que par exemple, il me semble que La Bonne Auberge, il joue aussi sur un système Donjons et Dragons. Et que tu citais avant, il y a Roll and Play qui joue aussi sur un... Enfin, maintenant, du coup, il joue sur le système Roll and Play, mais qui est un système basé sur la 5E. Ouais. Voilà, donc...
carrément. Moi, je suis assez fan. Après, ils ont le côté visuel qui est assez cool, parce qu'il y a tout ce truc wargame, les battle maps, etc., que t'as pas dans le côté podcast.
C'est ça. J'allais dire, peut-être qu'en fait, ça passe plus pour du côté visuel que pour du côté podcast. Mais c'est vrai que dès le début, moi, ce que j'aimais bien, c'était ce truc de réfléchir avec le médium, en se disant, bah, il faut effectivement quelque chose qui avance un petit peu vite, tout ça. Et surtout, il faut quelque chose fait par des débutants, pour des débutants un petit peu. Vous êtes d'accord ?
Oui. Oui, mais comme on a déjà dit, moi, j'avais fait du jeu de rôle deux fois dans ma vie, avant le Nuit de la Taverne, et j'avais trouvé ça complètement nul.
Ça balance.
C'est vrai, j'avais trouvé ça complètement pété. Et en arrivant avec Steve, en fait, j'ai découvert tout un monde de jeux de rôle qui était parfaitement adapté à la débutante que j'étais. Et enfin, j'avais pas peur de demander 1000 fois par session c'est quoi les dés. J'avais pas peur de dire mais est-ce que je peux faire ça ou pas ça, ou de dire je comprends pas ce que t'es en train de dire, je comprends pas les règles. Et en fait, je trouve que de toute façon le jeu de rôle, tant qu'il y a de la bienveillance, c'est ça qui fait que ça rend les choses accessibles. Parce que quand tu débarques sur un Donjon des Dragons et que tu connais rien, et qu'on te dit « Bah alors, fais un sort !» Bah, t'es un peu en sueur. Alors que si on t'explique tout, je pense tu vas comprendre et tu vas le faire aussi.
J'allais dire, je pense que ça fait peur quelque part, mais que c'est pas non plus un truc hermétique, et que si on prend le temps de t'expliquer et que toi t'as foncièrement envie de comprendre, ça va bien, quoi. Donc oui, mais je peux comprendre que la question se pose. Mais c'est fou, parce que moi, en tant que personne qui a fait un petit peu les règles du Mythe de la Taverne, se pose presque la question inverse de... Maintenant, on est arrivé à un stade où ils ont quand même joué beaucoup, beaucoup de parties. Et en fait, je trouve que le système descend commence légèrement à taper dans les limites. Et je me dis, est-ce que ce serait pas... Il n'y aurait pas moyen, genre, de transformer ça ou de genre... Non, non, mais j'ai pas dit qu'on avait passé sur les Donjons et Dragons. Mais en fait, ce que je me suis rendu compte, moi, ces derniers temps, en feuilletant pas mal de bouquins de jeux de rôle et tout, c'est que en fait, si par exemple Donjons et Dragons, ils sont passés sur un système D20 et que t'as autant de trucs qui cadrent le jeu, c'est pas pour rien quelque part. Genre, ils sont pas dit, on va faire ça, ça va être trop fun, ça va faire chier tout le monde. C'est que quelque part, en fait, il y a une logique. Et c'est vrai que petit à petit, je touche du doigt cette logique de me dire, bah en fait, on arrive à un point où, à part vous dire, bah vous avez un bonus de 10, vous avez un bonus de 5, ou genre je vous sors des objets avec des trucs claqués au sol, du genre il y a une bague qui fait du caca, et ben genre c'est difficile de trouver des choses pour vous améliorer autrement. Alors que je trouve qu'il y a certains jeux de rôle qui arrivent à avoir ce truc, et enfin il y a une balance un peu. C'est compliqué, je trouve, à balancer entre tiens, je vais te donner genre 6000 sorts que tu vas pouvoir utiliser, tu dois genre farfouiller dans toutes tes feuilles avant de trouver, ou t'es un peu. Il faut trouver un juste milieu. Madame Camille.
Ouais, mais
moi je suis d'accord, la réponse elle est sûrement dans l'entre-deux. Moi je lâcherai jamais le D20 parce qu'il y a vraiment un truc, beaucoup de contraintes, ça oblige des fois aussi à trouver sa liberté.
C'est ça, je suis d'accord.
Dans ces contraintes-là, et ça génère des choses vraiment ouf, et en même temps. Quand c'est trop quoi.
C'est la beauté, je trouve, okay. Du jeu de rôle, c'est que on peut faire ce qu'on veut.
C'est ça, tout à fait.
On a le droit de suivre les règles, on a le droit de les inventer et on a le droit surtout de faire ce qui nous plaît. Ah, donc,
c'est ça. T'as même le droit de prendre un manuel de jeu de rôle et de dire, je prends cette règle, mais cette règle elle est pourrie et je l'enlève. C'est parce que ça. Personne va venir te voir et te dire, mais non, faut pas faire comme ça.
Je veux dire, si un jour les règles du mythe de la taverne devaient changer, on a le droit de les changer et puis de toute façon, on fait ce qu'on veut. Hein. Ça qui est cool.
Moi, je vais vous faire jeter un dernier jet.
Allez.
Et comme je suis derrière mon écran de MJ, eh ben, je vais fausser absolument le résultat. Donc, faites comme si vous le saviez pas.
Ok.
Allez, je jette. 87.
1 ou 100
Un naturel ou 100 naturel ? Parce que 100, c'est vraiment super marrant.
Ouais.
Et c'est là où on se tape en général nos meilleurs bars parce qu'il se passe les trucs les pires de la Terre. Et en même temps, les 1, ils sont jouissifs parce que ils sont libérateurs de « Ah là là, ça y est, un truc qui fonctionne !» Genre, l'action, elle va être belle, elle va être incroyable parce qu'elle marche, mais peut-être elle sera moins drôle.
Ouais.
Moi, je partirais sur 100.
Moi aussi, je pense. Je pense, parce que c'est là où on se tape vraiment des bas.
Ouais. C'est trop drôle de devoir rechercher à la dernière minute un plan qui a été ficelé et qui ne fonctionne pas. C'est trop drôle.
C'est plus dur pour moi en tant que MJ d'interpréter quelque chose qui se passe extrêmement mal que d'interpréter quelque chose qui se passe extrêmement bien. C'est vachement plus facile de dire, t'essayes de faire un sortilège, de décrire en mode « Waouh, le sortilège est magnifique, ça fait exactement ce que tu veux », plutôt que d'un coup tu me fais « J'ai fait 100 » et je suis en mode « Ok, il faut que je réfléchisse à comment est-ce que c'est possible que
comment
ça marche ?» Voilà, c'est ça. Comment c'est possible que ça ne marche pas, mais genre, pas juste ça marche pas, c'est genre, ça marche pas du tout et en plus ça déclenche des effets indésirables. Donc... 100 pour le fun, parce qu'effectivement c'est drôle et ça les pousse à trouver une nouvelle solution. 1 pour le côté un peu plus relax, genre je peux me reposer sur des choses un peu moins impro, on va dire. Je ne prends pas position.
Moi, j'adore, je trouve que t'as vraiment besoin des deux parce que oui. Le 1 c'est un peu le but à atteindre, mais que tu peux pas apprécier si t'as pas vraiment pris des 100 dans la tronche. Le 100 il t'oblige à sortir de ta zone de confort.
C'est beau.
Pour le moment de ta vie où tu fais ton 1 qui arrive tout seul au bon moment et là c'est magique.
En plus c'est toujours, généralement quand tu fais 1 c'est toujours le moment où tu t'attends le moins.
Ou des fois pour des actions nulles.
Oui.
C'est-à-dire que des fois tu te dis, oh bah j'aimerais bien jeter la chaise par-dessus le mur,
comme
tu tapes 1
voilà.
Et tu jettes ta chaise mais comme John Cena. Alors que quand tu veux essayer d'aller tuer le monstre au fond de la cave, bah là tu fais 100.
C'est pour ça qu'on finit par faire genre la meilleure pizza du royaume. Mais par contre, pour se battre contre des golems, il n'y a plus personne.
Ah, c'est clair.
Mais c'est ça qui est vachement drôle aussi, je trouve, dans le jeu de rôle. C'est vraiment une part essentielle du truc, quoi. Limite, les gens devraient écrire des bouquins comme ça. Genre, ils font là, le personnage va attaquer la forteresse, et j'attendais. Ok, bon, il a. Bon, bah vas-y.
Mais carrément.
Ça va.
Mais
en fait,
d'ailleurs,
ça...
c'est vrai qu'un truc de littérature, je veux dire, t'as 5 cerveaux qui pensent à ce qu'un auteur peut des fois pas penser par lui-même. Tu fais ça, tu retraduis une saison de jeu de rôle en livre. Je suis sûr que ton truc il est vachement plus intéressant.
Ouais, oui, on a beaucoup ce truc où souvent ils participent à la création de l'univers et ils vont dans des directions que moi j'avais pas envisagées et je trouve ça limite plus intéressant. Ou des fois, ils font des théories sur ce qui va arriver après. Et je me dis, c'est mieux que ce que moi j'ai prévu. Genre, j'ai limite envie de dire, non, non, mais finalement, c'est pas ça, c'est ce que vous avez dit, parce que c'est vachement mieux.
Carrément. Et d'ailleurs, je sais pas si vous le saviez. Enfin, non, je sais que vous le saviez pas.
Oh.
Est-ce que vous saviez... Non, vous le savez pas. Je vous l'apprends. Dans le premier épisode de la saison 1 des Fabulistes, l'objectif pour les héros, c'est de faire une tarte aux pommes. Et vous, oui, très rapidement, leur objectif, c'est de faire une pizza. Et je vous assure que c'est trop drôle parce que ça se passe à peu près de la même manière. Ça finit mieux pour vous que pour nous.
Est-ce que les rôlistes sont amateurs de tarte en tout
genre ? Est-ce qu'on est obligé de commencer par une recette de cuisine quand on lance une campagne de jeu de rôle ?
Mais c'est fou parce qu'en plus, presque naturellement, la cuisine a pris une grosse place dans le mythe de la taverne.
Mais je trouve que c'est très propice à genre débuter. Je sais pas comment dire, mais le fait de pouvoir faire une recette... Il y a besoin d'aller chercher des ingrédients et ça crée des petites quêtes et ça crée des petits jets faciles. Et il y a un but final, je trouve que c'est une très bonne genre première quête de faire une recette.
C'est pas un truc avec trop d'enjeux non plus, c'est un truc qu'on sait faire dans la vraie vie.
Est-ce que la recette, c'est pas finalement, ouais, c'est ça, l'archétype de la quête de JDR, hein. C'est-à-dire, on te dit, va chercher tel objet pour pouvoir faire tel truc. Et après, tu fais un jet de dés pour savoir si t'as réussi à faire la recette. C'est génial.
Mais putain, oui.
Tu viens de lancer quelque
mais
chose
moi,
de ouf.
C'est pour ça que j'ai ouvert la campagne sur une tarte aux pommes. On s'attend à un truc épique. Et en fait, c'est vraiment la recette de cuisine. C'est vraiment la quête ultime du héros.
C'est fou.
T'as un objectif. Faut des ingrédients pour faire cet objectif. Enfin, oui, je suis complètement d'accord.
Non, mais on vient de mettre le doigt sur quelque chose de fou, là. Il faut qu'on écrive un livre théorie sur le jeu de rôle.
De cuisine en GDR.
La recette du GDR.
On a théorisé la recette de cuisine comme la quête parfaite. C'est fou.
Mais du coup, tu fais tous les grammages en dessin. Après, ça peut être une catastrophe.
Non, mais imagine, ça peut être une bonne technique d'auteur de te dire, t'imagines tes quêtes comme une recette de cuisine.
Oui.
Bim,
vous m'avez
on a
parasité.
Mis le doigt sur un truc
on
de
va
ouf.
Parler, on parle recette de cuisine, ça y est. Moi aussi, j'ai envie de parler que de ça. J'ai envie d'aller cuisiner. Putain, le mythe de la taverne et leur cuisine. Sauvez-moi.
Yes.
Écoutez, moi, j'arrive au bout de mes questions. J'arrive au bout de ce petit jeu.
Bah en tout cas, merci à toi d'avoir proposé.
Ouais, et merci pour l'invitation, c'était très, très chouette.
Et de toute façon, on reste en contact.
Oui, hein, j'allais dire la même chose. J'allais dire, on reste en contact. On
se bigoufle.
On voit ce qui peut se faire et comment ça peut se faire. Mais oui, en tout cas, un gros, gros merci de nous avoir proposé ça. Et franchement, c'était très, très chouette. On savait pas trop à quoi s'attendre au début.
Oui, mais c'était
et
moi
non sincèrement.
Plus.
Non, mais ça, franchement, c'est une bonne idée, je trouve, le truc du dessin, les petites questions comme ça. C'est vachement chouette. C'est un
non,
bon moment
vraiment,
de partage et d'échange.
Je vous assure, merci beaucoup en tout cas parce que bah c'est ça, vraiment cet ensemble de gens qui se connaissent pas, qui peuvent se capter, qui acceptent de se faire espionner industriellement par des concurrents, c'est super, c'est vraiment très très bien. Voilà. Il me donne un étrange artefact qui me permet d'écouter leur épopée sur Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de streaming. Je ne comprends pas. Je peux aussi suivre leurs actualités sur leur Instagram. LMDLT Pod. Je promets de m'abonner. Mais je dois les quitter. Ils reprennent leur partie de jeu de rôle. Et après de chaleureux au revoir, la porte du mythe de la taverne se referme.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds.
Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.